Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, alors que les collectivités territoriales préparent leur budget, les entreprises craignent la hausse de la fiscalité. Jean-Luc Monteil pour le MEDEF et Denis Vogade de la D0410+ dans ce magazine. Bâtiments et travaux publics restent positifs pour l'année 2022. C'est le constat du président de la Fédération du BTP 04, Julien Rey. Interview dans un instant. À Digne, l'agglomération ouvre un appartement témoin pour seniors. Le reportage d'Odile Frison pour Force 7. En pays sisteronnais, Philippe Tribaudeau vit dans un endroit sans champ électromagnétique car il est diagnostiqué personne électro-hypersensible. La disparition programmée des zones blanches est une très mauvaise nouvelle pour lui. Chris Alessandri l'a interviewé. La technique photo se partage. Trois professionnels proposent un stage en mars à Pierre Vert. Parmi eux, le président des Nuits photographiques, Stéphane Kosman. Il présente ce stage à la fin de ce magazine. La fiscalité et l'inflation inquiètent les entreprises.
Alors que la situation sanitaire s'améliore, les entreprises souffrent de l'augmentation du prix des matières premières et du coût de l'énergie, tout autant que des difficultés de recrutement pour bien des secteurs. Mais en plus, les signaux venant des collectivités territoriales laissent augurer une hausse de la fiscalité qui s'ajouterait à l'inflation générale. Quatre représentants patronaux des Alpes-de-Haute-Provence ont fait part de leur inquiétude. Daniel Margot, président de la CCI 04, évoque cette période compliquée suite à la crise sanitaire et à des conditions extérieures défavorables qui font craindre la hausse des taxes foncières, par exemple, qui pourrait tenter les exécutifs locaux. Le président de l'Union des entreprises du 04, Didier Long, dénonce, lui, entre autres, la taxe mobilité qui est une aberration dans un département rural où la voiture reste le moyen de locomotion indispensable et souvent unique pour les bassins d'emploi bas-alpins. Denis Vogade préside l'AD04, agence de développement, et note que, outre l'attractivité des territoires avec leurs réserves foncières, l'accessibilité à l'autoroute ou le déploiement de la fibre, des freins à l'installation existent. La fiscalité locale peut décourager les candidats à l'implantation. Même constat pour Jean-Luc Monteil, vice-président du MEDEF, qui a réalisé une étude régionale voilà quelques années et qui montre clairement combien les taxes pèsent sur les entreprises. Des éléments défavorables dans les intercommunalités notamment, dont les recherches d'économies de fonctionnement ne sont pas suffisantes et font craindre une hausse de la fiscalité. Jean-Luc Monteil s'en explique, mais aussi le président de l'AD04, Denis Vogade, qui évoque l'attractivité du territoire. Jean-Luc Monteil, vous êtes vice-président du MEDEF. Vous êtes venu ici à Manosque avec vos amis chefs d'entreprise pour déclarer, en gros, que la fiscalité était confiscatoire. Expliquez-nous.
Bah, disons que ce qui s'est passé, alors je remercie mes collègues d'avoir accepté de sortir un ancien de la poussière. Non, ce qui se passe, c'est que j'avais fait une étude à l'échelle de la région sur la fiscalité qui pèse sur les entreprises, sur l'ensemble des grandes intercommunalités. Et on avait noté que notre département avait déjà une fiscalité qui était largement au-dessus de la moyenne de la région, voire même où on avait le pompon, le premier prix de la plus haute fiscalité d'une intercommunalité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un moment où on parle de budget, et c'est normal, puisque c'est la période dans toutes les intercos. Nous, ce qu'on souhaite faire passer comme message aux élus, c'est très simple, c'est de se dire qu'on est complémentaires, on est plutôt là pour accompagner, aider, éclairer le débat politique, et que, compte tenu de ce qui précède, c'est-à-dire du niveau élevé de cette fiscalité locale, qui pèse d'ailleurs aussi autant sur les ménages que sur les entreprises, on leur dit, si d'aventure vous souhaitiez, vous aviez dans l'idée d'augmenter la fiscalité, on vous le déconseille et on vous demande plutôt de faire ce que nous on fait en entreprise, c'est de reprendre vos comptes et de voir là où vous pouvez dégager des marges de manœuvre sur votre fonctionnement pour faire en sorte qu'on ne plombe pas l'attractivité de ce magnifique département.
une inflation galopante, une crise sanitaire et également des difficultés de recrutement et d'approvisionnement. C'est difficile en ce moment.
Oui, c'est pas simple, mais ça nous dérange pas, nous. C'est notre quotidien. Et donc, il faut comprendre aussi, et c'est le message qu'on passe aux élus, que être élu, c'est pas simple. Et qu'il faut prendre des fois des décisions qui sont lourdes, y compris dans la gestion. Et donc, c'est le message qu'on leur fait passer. C'est de se dire qu'ils sont élus pour le meilleur et pour le pire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans le cadre de ce débat budgétaire, ils fassent preuve de responsabilité comme nous, on le fait au quotidien. En clair, on fait avec ce qu'on a.
Ça permettrait aux chefs d'entreprise d'augmenter les salaires des salariés qui sont les producteurs dans leurs entreprises.
C'est déjà le cas, puisque, comme l'a rappelé Didier précédemment, on a une politique et on a des négociations dans toutes les entreprises ou dans toutes les branches professionnelles qui visent à rééquilibrer les grilles de salaire en fonction de l'inflation, qui est un élément nouveau et qu'on doit être en capacité d'accompagner. Après, il y a un autre élément sur lequel on est plus en difficulté, surtout dans des départements ruraux ou non métropolitains comme le nôtre, c'est-à-dire on prend tous la voiture pour aller travailler, les transports en commun ne sont pas adaptés au monde du travail, et à ce titre, on a conscience, parce que c'est une réalité, que nos salariés ils voient le plein qui est de plus en plus cher. Déjà, c'est un vrai budget au quotidien. Et puis en plus, on le voit pour recruter. C'est une vraie difficulté parce que avant, faire 30 km pour aller travailler, ça ne posait aucune difficulté. Aujourd'hui, avec l'augmentation des carburants, ça devient vraiment pénalisant. Et donc, si on doit aujourd'hui allouer des budgets, je préférais les allouer pour le confort de mes salariés plutôt que pour le confort de telle ou telle intercommunalité.
Si je comprends bien, alléger la taxe transport, alléger aussi peut-être la taxe des ordures ménagères et puis la taxe foncière aussi.
Oui, si vous voulez, c'était la grande idée de l'intercommunalité à la française, c'était d'être en capacité, en fédérant des moyens, de faire mieux, moins cher. Le constat qu'on fait, malheureusement, c'est qu'aujourd'hui on fait comme avant, mais beaucoup, beaucoup plus cher.
Denis Vaugade, vous présidez l'Agence de développement des Alpes de Haute-Provence. Comment rendre ce territoire encore plus attractif ?
Bah écoutez, c'est très simple. Il faut donner envie aux entrepreneurs et aux citoyens de venir s'y installer. Pour ce faire, il faut quelques ingrédients pour la bonne recette.
Par exemple, maîtriser le foncier et faire en sorte qu'il soit attractif lui aussi ?
Évidemment, ça fait partie d'une des données, même si ce n'est pas forcément celle qu'on attend en priorité. Mais la fiscalité, d'une manière générale, d'un territoire rentre dans les critères de choix, aussi bien de l'entrepreneur que du citoyen.
Le cadre de vie de ce département irrésistible ?
Non, mais il y contribue évidemment énormément. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on a 300 jours de soleil par an, on va tout faire avaler comme pilule. Donc on a besoin de rester éveillé et de rester dans nos fondamentaux.
Alors avec une crise sanitaire qui est en train plus ou moins de s'atténuer, mais une inflation qui, elle, au contraire, est en train de grimper, les voyants ne sont pas tout à fait au vert.
C'est pas que les voyants ne soient pas au vert, je crois que les entreprises, et en plus particulièrement dans le 04, ont plutôt bien résisté à cette crise, alors à quelques exceptions, hein, dans des domaines très particuliers au niveau du tourisme, qui ont évidemment perdu beaucoup de clients avec le manque d'étrangers dans le département, mais pour l'ensemble de pas mal d'entreprises, les entreprises du 04, les études le prouvent, ont plutôt bien résisté à la crise. Pour autant, c'est pas parce qu'elles y ont bien résisté qu'il ne faut pas se préoccuper de ce que va être l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? Quelles sont les ombres au tableau ? Évidemment, l'inflation est une ombre au tableau.
Je rappelle que vous êtes vous-même chef d'entreprise de Denis Vaugade. Des problèmes de recrutement, des problèmes d'approvisionnement, par exemple ?
Alors franchement, chez l'Authentique, peu de personnel, pas parce qu'on a une équipe stable, peu de turnover. D'approvisionnement, bah, évidemment, ils se sont énormément allongés et les matières premières se raréfient et coûtent plus cher. Donc voilà, une problématique que beaucoup de chefs d'entreprise connaissent. Pour le moment, ça n'impacte pas directement au quotidien le chiffre d'affaires, mais à moyen terme, ça pourrait devenir embêtant.
L'énergie, le carburant ?
Peu concerné par ces problématiques-là, dans mon entreprise en tous les cas, hein, je vais le dire comme ça. Évidemment, si on posait la question à Didier au Transport Brément, lui, ça va être une autre problématique.
Le BTP 04 est confiant.
Même si certains matériaux ont vu leur prix flamber ou bien sont en indisponibilité, ces facteurs de ralentissement sont contrecarrés par les effets positifs du plan de relance ou de la rénovation énergétique. Les professionnels constatent une relance rapide qui offre une bonne visibilité pour les entreprises, malgré des difficultés pour recruter du personnel. Les logements neufs doivent aussi progresser et le secteur espère un rattrapage de l'année 2020. Président de la Fédération des bâtiments et travaux publics des Alpes-de-Haute-Provence, Julien Rey, répond aux questions d'Odile Frison.
Julien Rey, président de la Fédération du BTP 04, quelle est la situation dans le secteur de la construction dans les Alpes-de-Haute-Provence?
Ben écoutez, la situation là, s'est grandement améliorée par rapport à 2020, forcément. Donc aujourd'hui, la plupart des entreprises ont un carnet de commandes qui est revenu à la normale, voire qui est plutôt soutenu. Donc il y a une très très bonne visibilité au niveau du travail à venir, proche. C'est plutôt beaucoup plus positif. Il y a eu une relance rapide. En fait, tous les dispositifs mis en place par l'État ont contribué effectivement à cette relance rapide. Même si au niveau de la construction de logements neufs, on est encore en dessous de ce qu'il faudrait. Mais il y a eu pas mal de dispositifs sur la rénovation énergétique et puis au niveau du plan de relance pour les collectivités qui ont vraiment contribué à une relance rapide et efficace, quoi.
C'est plutôt mieux au niveau des carnets de commandes, mais il y a bien sûr des points noirs.
Oui, ben, ce serait trop beau si tout était rose. Effectivement, on rencontre des problèmes. Il y a eu une explosion du coût de certains matériaux. Il y a eu une flambée générale, mais une explosion sur certains matériaux qui nous inquiète énormément parce que on voit aussi qu'il y a des projets pour lesquels il y a des permis de construire qui ont été acceptés mais qui ne sont pas lancés. Il y a des marchés qui avaient été obtenus et des marchés attribués avec un niveau de prix qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Donc du coup, les entreprises se retrouvent dans des situations de négociation avec les clients puisque les clients qui ont budgété un certain montant qui n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Donc il y a une période transitoire qui est un petit peu compliquée à ce niveau-là. Notre période aussi sur la pénurie de certains matériaux, donc ça commence à s'estomper, mais il y a quand même encore un problème de pénurie ponctuelle de certains matériaux qui désorganise la production et la construction. Donc on se retrouve avec des chantiers qui sont arrêtés parce que il manque tel ou tel élément. C'est jamais le même, c'est complètement désorganisé. Il y a une hausse des matériaux significative, ce qui nous inquiète donc sur la réalisation de certains projets, puisque certains particuliers se retrouvent avec un surcoût pour la construction de logements individuels ou même pour les collectivités. Hein. C'est quelque chose qui entraîne un surcoût important au niveau des projets, donc qui va forcément réduire le nombre de projets au niveau des collectivités en nombre, et qui va certainement aussi soit réduire les projets en taille des particuliers, soit voire les rendre impossibles. Donc on a constaté une forte hausse des permis de construire accordés, donc ils ont progressé de presque 70% par rapport à 2020, en sachant que 2020 n'était pas une année dense en termes de permis accordés, puisqu'il y avait eu pas mal de désorganisations dans les services, mais en tout cas on est à 45% par rapport à 2019. Donc c'est plutôt rassurant, sauf que on cumule un dispositif de la RE 2020 qui est un dispositif obligeant surtout à construire des bâtiments vertueux, donc très bien isolés et très peu consommateurs d'énergie. Donc c'est très positif, sauf que ce dispositif-là aujourd'hui est une obligation et donc va obliger les gens à construire sous certaines contraintes pour avoir des logements performants et peu énergivores. Et ça représente un surcoût déjà qui est assez important, de l'ordre de 15 à 20% des constructions. Et si on rajoute à ça le surcoût des matériaux, ça fait clairement exploser la facture des constructions à venir. Donc bon, les promoteurs et puis bon, de manière générale, les gens qui avaient des projets dans les tuyaux, le sachant, ont certainement accéléré leur demande de permis de construire de manière à avoir des permis accordés en 2021 pour pas être soumis à cette réglementation. Donc derrière, on craint quand même un gros coup de frein à ce niveau-là. Donc voilà, il faut quand même qu'on reste très très vigilant et on espère qu'un retour à la normale le plus rapidement possible, autant sur l'approvisionnement et si possible, on espère également qu'il y ait un retour à la normale au niveau des coûts, même si on n'est pas très confiant à ce niveau-là.
Alors tout à l'heure, vous nous parliez de recrutement. Les recrutements dans le BTP, il y en a?
Alors aujourd'hui, énormément d'entreprises, quasiment, j'ai envie de dire, entre... une entreprise sur trois et une entreprise sur deux recrute. Les carnets de commandes sont pleins, il y a du travail. Donc les entreprises recrutent. Effectivement, c'est très compliqué de recruter. On a très peu de candidats.
très peu de candidats. Alors on sait que c'est partout pareil, donc pour en parler avec les restaurateurs ou avec dans tous les secteurs d'activité, on a bien conscience que le problème est général. Mais donc nous on connaît exactement le même problème de recrutement, très peu de candidats aux offres et un espèce de balai de siège, comment on appelle ça, de siège musical, donc avec des salariés qui vont d'une entreprise à l'autre, puisqu'il n'y a pas de nouveaux candidats, quoi. Voilà, donc on est peut-être sur un changement sociétal, on ne sait pas, on ne l'explique pas. Ça fait partie des problèmes qu'on rencontre actuellement également. On a énormément de mal à recruter.
Et pourtant, vous dites que les salariés dans le bâtiment ont quand même de bons salaires.
Ah ben oui, je trouve que c'est un métier... moi je pense que déjà ça a énormément évolué en termes de pénibilité. On est en perpétuelle amélioration, renouvellement. Les techniques ont évolué. La pénibilité a été énormément réduite. Et puis, moi je pense qu'on a un niveau de salaire qui est assez attractif parce qu'il y a plein de leviers dans le bâtiment pour avoir des rémunérations. Déjà c'est des métiers où on peut faire un petit peu des heures supplémentaires, donc c'est rémunérateur. Il y a les déplacements, il y a les trajets, il y a les paniers. Donc tout ça, ça crée des leviers à des rémunérations un petit peu plus conséquentes. Et puis, je pense que la pénurie se faisant et la rareté aussi de certaines compétences, les salaires ont quand même considérablement augmenté dans le bâtiment. On ne fait pas du tout partie des métiers qui payent mal les salariés.
Appartement témoin pour seniors, Digne et P2A Innov.
Cette proposition s'adresse aux seniors et à leurs familles pour penser la prévention et vivre le maintien à domicile le plus longtemps possible. Le Living Lab fait visiter un appartement témoin à destination des personnes âgées dans un but de prévention et d'anticipation à la mise en EHPAD. On peut s'y rendre les mercredis après-midi en prenant contact avec Tanguy Baquet au 06 08 67 21 55, 06 08 67 21 55, chargé de mission pour Provence-Alpes Agglomération sur le Living Lab, l'atelier 77, situé 1 rue du Trélus à Digne-les-Bains. Tanguy Baquet présente l'appartement témoin au micro d'Odile Frison.
L'appartement a été pensé par des ergothérapeutes. L'objectif, c'est de penser la prévention et le maintien à domicile. C'est à destination principalement des seniors, mais aussi des entreprises qui travaillent sur ce thème-là, des chercheurs et des acteurs locaux qui peuvent travailler sur la formation notamment. Donc formation d'aide à domicile, formation d'aidants, formation d'infirmières, etc. Donc on a l'appartement tout équipé avec une partie chambre, une partie cuisine sur le côté, une partie salon là, et la salle de bain qui est derrière, et on a un espace qui est consacré à la réunion et aux formations, et c'est là qu'on accueille notamment les formations aider à aider en se formant de l'ADMR.
Donc tout ce qu'on trouve comme mobilier dans cette partie d'appartement témoin peut être disponible pour les personnes qui veulent s'équiper.
C'est ça. Après, c'est quelque chose de vraiment large. C'est-à-dire qu'ici, on a ciblé toutes les pathologies et tous les problèmes que pouvaient rencontrer des personnes. Donc quelqu'un qui est déficient visuel n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui a du mal à marcher, par exemple. Alors ici, c'est un ensemble de choses qu'on peut trouver qui ne s'adresse à une généralité pour être complet.
Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on y trouve ?
Alors, par exemple, dans la cuisine, on a un plan de travail qui monte et qui descend. Donc ça, c'est notamment pour les gens en fauteuil. Ici, on va avoir aussi des placards qui sont escamotables, qui permettent de ne pas devoir monter sur une chaise pour attraper les éléments, par exemple, et qui peuvent se replier.
J'ai envie de dire, c'est génial pour tout le monde, ça, même pour les petits.
C'est vrai, ça peut servir, oui. On a ensuite des choses plus simples, comme par exemple des assiettes ici, mais qui sont antidérapantes. En fait, c'est des petits aménagements tout simples, mais qui peuvent changer beaucoup de choses.
Et des tables, donc, qui sont incurvées
C'est ça, qui sont designées pour permettre de manger sans en mettre partout, en gros, de plus facilement sortir et re-rentrer. Et ce genre de chaises aussi, avec des roulettes, qui sont une aide pour les aidants, en fait, pour permettre de déplacer la personne beaucoup plus facilement. On va avoir ensuite, par exemple, là, un fauteuil qui aide à se relever. un coussin dans le coin qui amplifie le son de la télé. Donc si par exemple votre mari entend mal mais vous vous entendez bien, ça permet d'avoir le son plus fort que pour une des deux personnes, celle qui a la tête pour le coussin. Donc ça permet d'éviter de rendre sourd tout le monde. Et on a la même chose ici avec des écouteurs, mais le coussin ça donne un côté plus pratique. Ensuite on a une partie salle de bain, donc on va avoir, donc je vais pas le mettre en marche parce que ça fait beaucoup de bruit, mais on a un séchoir pour les personnes qui n'arrivent pas à sécher avec une serviette. On va avoir une douche qui est aimantée pour éviter d'avoir la douche qui tombe en fait. Une demi-paroi, ça sert beaucoup pour les aidants. Quand les aidants travaillent, si la douche est fermée complètement, ça va être difficile d'aider la personne à prendre sa douche. Mais là, sur quelque chose comme ça, qui peut facilement bouger aussi, ça permet à la personne de travailler sans se mouiller et sans mouiller les alentours et en étant beaucoup plus maniable. On a des toilettes qui peuvent remonter et descendre, comme ça. Un miroir qui est incliné aussi, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil. Ça permet aux personnes de pouvoir se voir. On va avoir beaucoup d'outils comme un téléphone pour seniors. Là, on a une horloge parlante qui, quand elle est configurée, rappelle l'heure des médicaments, rappelle l'heure du repas, ce genre d'éléments. On a des grossisseurs pour permettre mieux la lecture. On a un robot ici de téléprésence qui permet en fait de recevoir des appels de ses proches, de pouvoir dialoguer, et la personne qui est à distance peut prendre le contrôle du robot. Donc je peux me déplacer avec mon téléphone dans la pièce pour voir où est la personne si jamais il y a un problème ou s'il n'y a pas de réponse. Et ensuite, là-bas, on a une partie stockage dans le coin où là, on stocke des éléments un peu plus gros qui servent notamment pour la formation, pour déplacer les personnes, par exemple. Donc voilà pour le petit tour de l'appartement.
On a envie d'équiper son appartement, même sans être forcément handicapé. Ça facilite beaucoup les choses.
Oui, c'est l'idée. L'idée, en fait, c'est surtout aussi le côté prévention pour éviter la chute, éviter les problèmes et permettre aux personnes de rester plus longtemps chez elles. Donc souvent, quand on reçoit des seniors ici, c'est peut-être ce qu'on a comme retour, des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé auparavant, mais une fois qu'ils les ont découvert, que ça existait, parce que des fois il faut avoir l'idée, c'est quelque chose qui dans le quotidien peut vraiment être utile et peut vraiment permettre de gagner des années à domicile en évitant de tomber, en évitant ce genre d'éléments en fait.
Parce qu'en fait, tout ce mobilier ou ce matériel coûte cher pour les particuliers.
Oui, alors il peut y avoir certaines aides en fonction des équipements. Ça se passe après au niveau du département, ceux qui gèrent du coup la partie sociale, avec un ergothérapeute qui vient à domicile, qui fait un diagnostic en fonction du diagnostic de la personne. Nous, en tant que collectivité publique, on n'est pas là pour vendre des éléments ou pour faire de la publicité. On est là pour montrer un ensemble d'idées, de choses qui existent, et c'est aussi un lieu dans lequel on mène une réflexion. On reçoit des chercheurs de l'INRIA à Nice, du CHU de Nice, qui rencontrent des seniors dinois et du territoire de Provence-Alpes-Agglo, donc des seniors ruraux, qui ont donné leur avis aux chercheurs pour construire le futur, en fait. Ils ont pu tester les technologies qu'il y a là, ils ont dit « celle-là, elle va bien, celle-là, elle va pas, ça pourrait être amélioré comme ça, je me vois pas avec ce genre de technologie chez moi, ou au contraire, je m'y vois bien ». Et ça aide réellement les chercheurs à penser la suite. Donc l'idée de ce lieu, c'est aussi un lieu d'innovation où on met le futur usager, donc le senior, au centre du processus.
Est-ce que c'est aussi du matériel qui peut être envisagé pour les maisons de retraite ?
Alors oui, c'est du matériel qui peut. Après, nous, l'idée ici, c'est qu'on se place en amont de l'EHPAD. On n'est pas. Le but, c'est d'équiper son domicile plus que d'équiper des maisons de retraite. On est en partenariat avec les maisons de retraite du territoire, mais l'objectif qui est aussi mis en avant par cette politique de territoire de pleine santé de la ville, c'est vraiment d'anticiper la mise en EHPAD et d'éviter la chute, d'éviter tout ce qui pourrait faire qu'une personne aille en EHPAD pour qu'elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible.
Les zones blanches disparaissent.
Et pour la plupart d'entre nous, c'est une bonne nouvelle. Mais pour certains, cependant, ça vire au cauchemar. La suppression des dernières zones blanches, ces endroits exempts de champs électromagnétiques artificiels, plus particulièrement réseaux de téléphonie mobile et Internet, est programmée sur l'ensemble du territoire français. mais elle se fait au détriment de la santé des personnes électro-hypersensibles, EHS. Dans un rapport de 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire évalue leur nombre à plus de 3 millions. L'exposition à des champs électromagnétiques est à l'origine de symptômes très lourds que le corps ne supporte plus. Diagnostiquée personne électro-hypersensible et réfugiée dans la forêt domaniale du Vençon sur la commune d'Entrepierre en Pays Sisteronnais, Philippe Tribaudeau répond aux questions de Chris Alessandri.
Pour me présenter, je m'appelle Philippe Tribaudeau, je suis une personne électro-hypersensible et EHS donc, depuis 14 années et je vis dans la vallée du Vençon sur la commune d'Entrepierre où je suis réfugié sur une micro-zone blanche dans cette vallée. Je vis sur un campement en caravane et actuellement il y a une antenne 4G qui va s'installer, donc d'éradication des dernières zones blanches. Sauf que l'État n'a pas anticipé le fait que sur les dernières zones blanches de France, un peu partout sur le territoire, des personnes électro-hypersensibles, donc sensibles aux champs électromagnétiques, vivent réfugiées là, justement parce qu'il n'y a pas de réseau de téléphonie mobile.
Alors justement, deux petits points de précision sur ces fameuses zones blanches qui tendent donc petit à petit à s'amenuiser, à disparaître. Comment est-ce qu'on les définit? C'est-à-dire, vous êtes à l'écart du danger que cela représente pour vous?
Alors, ce qu'on entend par zone blanche, ça va être les zones blanches de téléphonie mobile. En sachant qu'une zone sans aucune pollution électromagnétique, ça n'existe pas. Les zones blanches, eh bien, c'est des zones, en fait, à très faible irradiation. Par exemple, sur ma zone blanche, il n'y a même pas de réseau de 120 volts dans la vallée où j'habite. Par contre, lorsque je vais sur un lieu de vie d'une autre personne électro-hypersensible, c'est pas certain que son lieu de vie sera même compatible avec le mien.
Par exemple, monsieur Tribaudeau, alors vous êtes une personne EHS, électro-hypersensible, c'est bien ça?
Voilà, et je suis reconnu comme tel dans le cadre d'une étude scientifique menée par le professeur Belpomme depuis 2008, qui recense un peu plus de 2000 aujourd'hui, 2000 personnes électro-hypersensibles, en sachant que la grande majorité des personnes électro-hypersensibles arrivent à vivre ou en ville ou dans les villages, dans leur habitat. Et un certain nombre, comme moi, sont obligés de tout quitter et donc de finir par vivre dans les bois, en caravane, dans des caves ou dans des grottes, comme c'était le cas il y a quelques années pour trois personnes EHS sur la commune de Saint-Julien-en-Beauchesne, dans les Hautes-Alpes.
Qu'est-ce qui caractérise cette pathologie dont vous êtes atteint?
Alors, moi, je vais vous parler de mes symptômes personnels qui sont légèrement différents d'un EHS à l'autre. Pour moi, personnellement, je brûle. Le mot brûler ou le verbe brûler, c'est ce qui s'apparente le plus à mon ressenti. En fait, ça me brûle dans le cerveau et j'ai l'impression d'avoir des milliers de petites épingles qui me piquent le cerveau et j'ai l'impression de brûler lorsque je suis dans une zone qui n'est pas compatible avec ma sensibilité. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a 14 ans, j'étais enseignant en prof de techno et je me suis mis à brûler derrière un ordinateur quand je travaillais. Alors au début, je brûlais au bout de une journée, puis après, je brûlais au bout de 4 heures, et puis après, au bout de 2 heures, etc. Et il suffisait que je m'éloigne de mon ordinateur, qui était mon outil de travail, pour que la brûlure de mon cerveau s'apaise. Une souffrance qui était de brûler derrière un écran, et le lien que c'était des champs électromagnétiques qui induisaient cette souffrance.
Donc cette brûlure inhibe complètement toutes les réactions que vous pouvez avoir, c'est quelque chose qui entrave complètement votre vie.
À partir du moment où je me suis mis à brûler derrière un ordinateur, puis après, en 3 mois de temps, je me suis mis à peu près à ne supporter plus aucun appareil électrique. Ça va du frigo au chauffage électrique en passant par une ampoule de 60 watts. En 3 mois de temps, je suis devenu SDF proche de ma maison, dans la maison où j'avais la chance d'avoir un camping-car.
Et donc ça va crescendo, cette pathologie? Ça amplifie ensuite?
Ça dépend. Pour moi, personnellement, ça s'est amplifié en quelques mois. Je suis aujourd'hui bien plus sensible qu'il y a 14 ans, qu'il y a 13 ans, qu'il y a 10 ans. Là, ça fait presque 7 ans que je vis sur la micro-zone blanche d'Entrepierre. Je suis à peu près stabilisé à un niveau fort, c'est-à-dire que je peux pas me permettre de sortir trop longtemps à l'extérieur. Je sors à peu près 8 heures par semaine à l'extérieur de ma zone blanche pour faire différentes choses, et notamment pour accompagner ma fille à l'école, etc. Il me faut après énormément de temps pour récupérer. J'ai été obligé de rester 2 mois sans sortir de ma zone, simplement parce que j'étais allé trop loin dans ce que j'étais capable de recevoir comme irradiation.
Philippe Tribaudeau, vous nous l'avez dit, cette maladie est reconnue. Que fait l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans ces cas?
Moi, je suis reconnu électro-hypersensible par la sécurité sociale, donc je suis en retraite pour invalidité de l'éducation nationale pour électro-hypersensibilité et je suis reconnu handicapé pour électro-hypersensibilité. Donc ça, c'est le côté reconnaissance sur le terrain. Par contre, au niveau de l'État, eh bien l'État ne reconnaît pas l'électro-hypersensibilité. Il n'y a pas un numéro dans la grille des pathologies au niveau de la sécurité sociale, il n'y a pas le numéro 725 égale EHS. Ça n'existe pas. Ce qui fait qu'en fait, c'est une contradiction de plus de l'État. qui d'un côté ne reconnaît pas les électrosensibles, mais qui de l'autre côté, sur le terrain, sont reconnus par les experts de la Sécurité sociale MGEN ou par les experts de la MDPH. Déjà, je suis en retraite, mais comme ma retraite est inférieure à l'allocation adulte handicapé, je vis avec les 900 euros par mois de ma retraite plus un petit bout d'âge.
Votre combat, il consiste en quoi? Quelle est la lutte que vous menez en ce moment?
Alors, en ce moment, j'essaie de convaincre la préfecture, alors, ou de me reloger, comme elle me l'avait indiqué dans un courrier de juillet 2021, ce qui n'a pas été fait. Si la préfecture n'est pas capable de me reloger, eh bien, c'est de me laisser vivre où je suis, en faisant un moratoire total ou partiel sur l'antenne. Là, on arrive vraiment à l'épreuve de vérité. Dans le cadre du plan New Deal Mobile, on éradique toutes les zones blanches. Mais nous, on vit là-dessus. Or, il faut bien qu'on ait le droit de vivre quelque part. Donc, arrivera forcément un moment où l'État devra reconnaître qu'il doit prendre en charge les personnes de l'EHS qu'il expulse manu militari en les irradiant, sans leur laisser le choix d'aller ailleurs dans la mesure où l'ensemble du territoire est irradié. Donc l'État se doit, à un moment ou à un autre, de créer des zones blanches. Donc je me bats aussi en parallèle avec l'association Zones Blanches pour créer sur la commune de Saint-Julien-en-Bouchaine, sur le site de Durbon, qui est une ancienne chartreuse, un lieu d'accueil d'urgence pour les personnes de l'EHS. Sur la commune d'Entrepierre, eh bien, je me bats, soutenu par un collectif d'une centaine de personnes de la commune, pour faire en sorte que j'ai le droit de vivre quelque part, et notamment sur mon lieu de vie, le temps que, ou la préfecture me trouve un autre lieu, ou l'État crée des zones blanches. Donc mon combat, il est là. Si j'avais qu'un seul cri à lancer, ça serait « laissez-nous vivre quelque part ». Si vous voulez en savoir plus sur notre combat, vous pouvez tout savoir, les différentes médiatisations et les différents documents courriers sur le site uneterrepourleshs.org, en un seul mot, une terre pour les EHS. Voilà. Un grand merci à tous et en lanceur d'alerte, c'est un petit peu d'espoir pour les générations futures. Ne laissez pas assassiner les lanceurs d'alerte, c'est toujours les générations futures qui en pâtiront.
Stage photo à Pierre Vert.
Ils sont trois, tous dans le métier et qui veulent partager leur technique et leur art. Ils accueilleront les stagiaires du 18 au 20 mars dans un studio éclairé et équipé pour permettre de travailler dans d'excellentes conditions. Stéphane Kosman, Gilles Delorme et Christophe Chevalier sont connus des professionnels et entendent communiquer leur passion chacun dans son domaine précis. Installation, éclairage, prise de vue, extérieur ou editing, la palette est large. Et pour ce stage, Stéphane Kosman va délaisser ses boîtiers sophistiqués et ses objectifs imposants qu'il utilise au Festival de Cannes ou en studio pour un simple téléphone, aujourd'hui l'outil populaire par excellence de tout amateur et même des professionnels. Renseignements et inscriptions au magasin Fox, avenue Jean Giono à Manosque, 04 92 87 08 93. 04 92 87 08 93. Stéphane Kosman, on connaît le président des Nuits photographiques de Pierre Vert, on connaît le photographe de mode, on connaît un petit peu moins l'enseignant, et vous vous lancez dans une activité, et notamment vous proposez un stage à Pierre Vert.
Tout à fait, avec mes amis Christophe Chevalier et Gilles Delorme, nous proposons un stage du 18 au 20 mars 2022 à Pierre Vert. Pourquoi trois photographes ? Pour que nos stagiaires puissent travailler avec trois regards différents d'emblée. On a chacun nos particularités. Je dirais que Gilles est beaucoup plus sur la technique. Christophe est très très investi dans la retouche. Et puis on va dire que j'ai le côté événementiel, puisque ça fait plus que 30 ans que je fais le Festival de Cannes. Donc la combinaison de trois regards comme ça et de trois photographes différents va amener le stagiaire en trois jours de stage à avoir une formation plutôt complète.
C'est une volonté de partager votre passion mais aussi vos compétences.
Tout à fait, c'est une volonté aussi de créer bien en amont des nuits photographiques de festival, déjà de sensibiliser la région, même au niveau national, qu'il va y avoir maintenant des stages photographiques à Pierre Vert.
Quel est le public que vous visez avec cette activité ?
Dans un premier temps, ça s'adresse aux débutants et aux photographes, on va dire, plus ou moins confirmés. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Je pense qu'à nous trois, on a un bagage suffisant pour pouvoir apporter quelque chose à n'importe quel niveau.
Vous avez du matériel spécifique, un studio ?
On a un studio, un plateau de 180 mètres carrés équipé avec tout l'éclairage possible. Et puis on fera donc une partie studio, une partie extérieure, une partie editing, une partie retouche. Voilà, c'est vraiment quelque chose de complet.
Question particulière, numérique ou argentique ?
Numérique, puisque l'argentique fera l'objet d'autres stages qui seront, eux, plus près de la période du festival, c'est-à-dire au mois de juin ou juillet. Voilà. Là, au mois de mars, on démarre avec quelque chose qui couvre un peu la demande qui existe aujourd'hui en photographie.
On peut rappeler les dates et puis également les conditions pratiques pour s'inscrire, combien ça coûte, etc.
Alors combien ça coûte, ça n'a pas été encore défini complètement, ça sera communiqué vraiment la semaine prochaine. Les dates c'est du 18 au 20 mars et donc encore une fois ça se passe à Pierrevert. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire chez Gilles Delorme, magasin Fox à Manosque, et puis encore une fois sur les réseaux sociaux on communique dès la semaine prochaine.
C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine, François, pour un nouveau Force 7.
Sans problème. Merci Olivier pour la régie.